Attention, attention, il y a une opération coup de poing dans l'air, là.
La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies, hein.
Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner.
www.libradio.org. La radio toute feu, toute flamme.
Voilà, alors nous sommes ici à l'arcade des grottes. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Le 21, je dirais.
Je sais qu'on est mardi.
Voilà, on est mardi, un mardi comme ça. Et nous sommes en compagnie de Raoul. Bonjour. Ciao Raoul, bienvenue. Merci d'être parmi nous, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué ces périodes. On va rappeler pourquoi est-ce qu'on se voit aujourd'hui. C'est parce que vendredi dernier, donc le 17 janvier, eh bien, c'était la manifestation pour l'anniversaire de la grève du climat qui avait lieu donc à Lausanne.
Oui.
Et qu'à ce moment-là, bon, évidemment, tout le monde en a beaucoup entendu parler parce qu'il y avait la présence de Greta Thunberg, bien entendu, qu'on considère qu'il y avait plus ou moins 10 000 personnes qui étaient présentes.
Oui, je crois que c'est les chiffres officiels.
Environ. Mais il y avait également un bloc révolutionnaire qui était présent, anonymisé comme pour des raisons évidentes d'autoprotection. Je sais pas si tu aimerais dire quelque chose à ce propos ou pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, on sait pourquoi on s'anonymise dans les manifestations et on a bien raison de le faire. Et il se trouve que, eh bien, tu en étais, mais je vais pas en dire plus, tu vas nous faire toi-même le récit.
D'accord. J'étais masqué, pour des raisons évidentes, protéger mon identité face à la répression que fait actuellement la police à Lausanne et partout ailleurs d'ailleurs. Et en fait, dès le début de la marche, alors qu'on était, peut-être 7 personnes avec juste une banderole et masquée, il y a le major Dumoulin de la police lausannoise, dont la brigade en fait intervient tout le temps quand il s'agit d'activistes politiques. Il est venu vers nous, il nous a dit, je me souviens plus de ses mots exacts, mais qu'il nous laissera pas participer à la manifestation, sans plus nous expliquer. On a un petit peu reculé dans la foule. Il y a toute sa brigade qui est venue pour nous plaquer contre une barrière au niveau de l'îlot central de la gare de Lausanne. Et puis là, ils nous ont gardés là pendant à peu près une demi-heure. Donc ils arrêtaient pas au fil. En tout cas, les policiers qui étaient devant moi n'arrêtaient pas de me faire des petites poussettes, des provocations, plein de remarques plutôt malveillantes. Puis ça a duré à peu près une demi-heure. Et puis on a été pressé plusieurs fois contre la barrière, on a écrasé les uns contre les autres avec une barrière en métal dans le dos. On a tenté une fois de s'extirper de cette nasse, simplement en essayant de passer à travers la police avec la banderole. Et puis on s'est fait replaquer de plus belle immédiatement. Il y a un attroupement de, je dirais, une vingtaine, trentaine de personnes, j'ai pas pu compter, qui étaient autour pour essayer de nous soutenir, qui réclamaient que la police nous laisse participer à la marche. On a demandé à la police si on se masquait, qu'on partait, qu'on renonçait à notre droit de manifester, est-ce que ils nous laisseraient partir? Ça a été refusé.
Alors effectivement, comme tu l'as dit, manifester c'est un droit. Comment est-ce que la police se justifie par rapport à de tels actes et par rapport, si tu voulais bien nous préciser, le dispositif policier qui est en place? Parce qu'on de plus en plus on s'aperçoit qu'il y a une disproportion incroyable du dispositif qui est là pour plusieurs raisons. C'est également une manière de communiquer vis-à-vis de la population, de dire on est obligé d'être présent de manière massive. Ça veut dire qu'en face de nous on aurait des gens dangereux. Voilà, alors voudrais-tu nous dire, peut-être nous décrire un petit peu cette présence policière qui était là?
Oui, alors il y a centralement la brigade qui intervient à chaque fois, donc au final des têtes qu'on reconnaît, parce que c'est toujours les mêmes qui sont là, mais il y avait aussi plus de policiers que d'habitude. Il y avait pas mal de policiers qui étaient simplement des policiers lausannois en bleu qui venaient, je pense, de différentes brigades, mais aussi des policiers anti-émeute habillés tout en noir, qui, je ne sais pas s'ils venaient de Lausanne ou de plus loin, mais ils avaient des plus grosses matraques, ils étaient aussi plus agressifs avec le reste de la manifestation.
Selon toi, c'est justifié cette présence massive de policiers?
Non, évidemment que non. On est simplement là pour réclamer de la justice climatique, pour ne pas crever, simplement pour le profit de quelques multinationales et quelques grands patrons qui ne veulent rien céder et qui sont défendus par tous les moyens nécessaires par la police, quoi.
C'est ça, c'est qu'on dirait presque que la police, à ce moment-là, est privatisée. Elle n'est plus du tout au service d'une population ainsi qu'elle devrait, a priori, l'être. Mais là, on a l'impression qu'elle est au service des multinationales, des dominants, des riches.
Oui, oui, c'est quelque chose qui est très généralisé, qu'on retrouve partout. Et pour faire... pas généralisé, mais vraiment cette brigade-là. Lorsqu'il y a eu le blocage, il y a à peu près un an, des retraites populaires aussi, lors d'une marche pour le climat, il y avait un dialogue qui s'est instauré avec le directeur local des retraites populaires et les activistes, et ça se passait bien. Il y avait vraiment un dialogue qui s'est instauré, ce qui est quand même des fois assez rare. Et puis c'est ce major Dumoulin qui est venu pour rompre ce dialogue, empêcher toute conversation, qui a mis la pression à ce directeur pour qu'il lui donne l'autorisation de foutre immédiatement ces activistes dehors. Et ensuite, les retraites n'ont porté plainte contre aucun des activistes qui a participé au blocage, mais la police les a poursuivis. Donc c'est vraiment la police qui va carrément se mettre à la place de ses directeurs pour faire pression et puis réprimer tout mouvement populaire qui essaye de se créer.
On pourrait parler de police comme auxiliaire du capitalisme, du grand capital.
Milice du capital.
Milice du capital, exactement. Le dialogue, tu as dit que vous l'avez tenté, vous avez dit, vous êtes allé au devant de la police, vous leur avez signifié que vous étiez prêt même à faire des concessions, alors qu'au bout du compte, vous n'y étiez pas obligé. Malgré tout, le dialogue est impossible.
Oui, que ce soit par nous ou par les autres manifestants qui étaient autour, qui s'étaient attroupés pour essayer de nous aider, de nous défendre. Il y a vraiment à maintes reprises des personnes qui ont essayé de communiquer avec la police. Et puis pendant longtemps, ils voulaient rien céder. À la fin, ils ont accepté que les personnes qu'ils n'avaient pas encore arrêtées se démasquent et puis après être fouillées, identifiées, etc., puissent partir. Mais avant ça, en fait, en tout cas pour moi et pour d'autres personnes sur place, ils m'avaient déjà menotté et arrêté. Et puis en fait, c'est venu un peu de nulle part. C'est un policier en civil qui m'a sauté dessus, littéralement, qui m'a plaqué au sol, qui a placé son genou vers mes testicules, qui en fait est très agressif. Et le policier qui était en bleu, en uniforme, juste à côté, l'a retenu par l'épaule, a dit « mais tu te calmes aussi, sinon je t'embarque ». Et il a crié dessus « ferme ta gueule, je suis de la police ». Et donc, sans demander plus de justification, plutôt que le retenir dans son agressivité, ils l'ont aidé. Ils m'ont pris, ils m'ont menotté. Puis après, ils m'ont porté, moi, et puis d'autres personnes qu'ils arrêtaient à ce moment-là. Alors, je crois qu'on a été deux à personnes masquées à se faire arrêter, parce qu'il y a aussi trois personnes qui ont été aussi arrêtés, qui étaient dans les personnes autour. Et donc, ils nous ont emmenés vers le fourgon de police qui était garé à 15 mètres plus loin. Tout le monde autour s'offusquait de la violence dont ils faisaient preuve. Une avocate de l'ONU qui nous a passé sa carte, parce qu'elle était, j'imagine, choquée aussi de comment ça s'est déroulé, quoi.
Ça arrive à quel moment de la manif? Et est-ce que, justement, tu l'as déjà un petit peu ébauché, mais est-ce que tu as senti qu'autour de toi, les gens prêtaient attention à ce qui se passait par ailleurs? Parce que ça, on le dit entre nous, veillons les uns sur les autres tout le temps, parce que voilà, on est des personnes vulnérables quand on est dans ce moment-là, même si, on va le rappeler, si on s'anonymise justement, c'est parce que certains d'entre nous, qui vont en manif, le font aussi pour celles et ceux qui ne peuvent absolument pas s'y rendre pour plein de raisons.
Oui, absolument. Recommencer.
Alors, à quel moment de la manif ça arrive
Voilà, au tout début.
Au tout début, ouais.
C'était sur la place de la gare, ils nous ont vraiment pas laissé commencer la manifestation, même pas faire un pas. Ils sont directement venus sur nous. Et puis, en fait, ils nous ont contenus contre cette barrière. Donc, le cortège commence à partir. Et puis, il y a toute une partie du cortège qui a refusé de partir avec la reste, qui est restée en solidarité avec nous, qui a réclamé qu'on puisse aussi participer à cette manifestation.
Malheureusement, cette solidarité opérationnelle qui a eu cours n'a pas permis de vous libérer, mais elle a quand même eu cours.
Oui, absolument. Et au final, ça... Oui.
Ouais. Alors dis-moi, vous arrivez à ce moment-là, vous êtes menotté, transporté, manu militari jusqu'au fourgon. Ensuite, comment se passe ce transport? Et puis ensuite, on va parler de la garde à vue, parce que vous êtes mis ensuite en garde à vue.
Voilà. Ben, à aucun moment de notre fourgon, où on m'a dit, ouais, t'es en état d'arrestation, si ça, pour telle raison, je savais pas pourquoi. Donc, ils m'ont balancé dans le fourgon, vu que je coopérais pas avec la police. On était trois dans le fourgon, et on était tous menottés dans le dos, et pas attachés avec la ceinture. Donc, s'il y avait un accident, c'était pour notre pomme, quoi.
Ouais. Donc, le transport en soi est également problématique. À ce moment-là, les policiers se taisent parce qu'après, on va en venir à leur attitude par rapport à vous. On le rappelle, des personnes qui sont là pour dénoncer les atteintes à la crise climatique qui a cours, donc des personnes qui sont dans l'empathie, dans la solidarité, dans l'idée de se dire on veut un monde meilleur, donc on n'est pas au devant de, je sais pas moi, de droits communs. Et quand bien même, votre rapport à la police pendant le transport, il est nul à ce moment-là, ils vous parlent pas, ou est-ce que déjà là ils commencent avec leur raillerie?
Ils avaient commencé avec leur raillerie déjà avant quand ils nous nassaient, mais je me souviens dans le fourgon, qu'il a un peu parti sur les chapeaux de roue après que surtout les flics anti-émeutes ont un peu tapé dans la foule pour faire de la place pour qu'ils puissent partir. Puis il y a des choses qui bougeaient, qui tombaient un peu, et puis ils ricanaient, attention, on va pas prendre ça sur la tête. Et puis ouais, au final, ça a pas duré très, très longtemps, de le transport jusqu'à Tunnel.
Et alors ensuite, comment ça se passe?
Alors, une fois arrivé à Tunnel, ils ouvrent la porte, ils m'en sortent de force, ils m'amènent directement dans une salle de fouille. Là, j'ai déjà réclamé plusieurs fois de pouvoir voir un médecin pour qu'il puisse attester de si j'étais blessé ou pas suite à cette interpellation musclée. J'ai demandé aussi une dizaine de fois de pouvoir contacter mon avocate. Ça m'a été refusé. Et un des policiers m'a carrément crié dessus qu'il m'avait pour l'instant pas lu mes droits. Donc, j'en avais pas.
D'accord. C'est eux qui décrètent, c'est
voilà,
eux qui décident.
C'est eux qui décident. Hein, okay. Ça, faut que ce soit très très clair pour eux. Ils m'arrachent mes habits de force. Et on menace de couper mes lacets avec un couteau, de détruire mes affaires au final. Si j'enlève pas moi-même mes chaussures, on m'arrache mon sac à dos et aussi de force, quoi. Ils m'ont pas fouillé intégralement, même si un des policiers a quand même demandé trois fois, faut bien être sûr à sa hiérarchie s'il fallait pas faire une fouille approfondie. Je crois qu'il avait très envie de la fermer. J'ai eu de la chance, j'ai échappé.
On est vraiment totalement à leur merci à ce moment-là.
Absolument, ouais, oui. Ouais. Moi, j'étais par terre, recroquevillé sur moi-même dans cette salle de fouille. Il y avait sept policiers dans la pièce. Et puis, ils m'ont laissé là pendant à peu près une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, ça a fusé. Ils n'ont pas arrêté de me faire des remarques désobligeantes, malveillantes sur mon physique, mes revendications politiques, mon état psychologique, ma manière de me comporter, mon look, enfin, tout vraiment, tant que c'était viriliste, ça y allait. Je pensais sept policiers qui étaient sur place, il y en a pas un qui a dit une fois ça sert à rien, arrêter de faire ça, ou bien de la moindre remarque à ses collègues. Enfin, c'était vraiment un effet de groupe. Ils étaient là, ça les amusait. Il y en a un qui, à un moment, qui me crie dessus, est-ce que tu vas pleurer, est-ce que tu fais moi le malin maintenant, ça. Tout ça,
menaces et railleries, ouais.
Voilà, oui.
Admettons.
C'est beaucoup de menaces.
Ouais.
Il y en a. Je me suis plaint qu'il y en a un qui je sais pas si c'est intentionnel, j'ai senti plusieurs fois son pied contre ma jambe, pour arrêter de donner des petits coups de pied. Enfin, tu vois, je peux donner des coups de pied, tu vas voir, si je te donne des coups de pied, ce sera pas pareil.
En admettant que tu as eu un problème de santé, il t'aurait probablement pas écouté. On peut imaginer que il y a une mise en danger d'une certaine manière, et puis que en traitant comme ça les personnes, eh bien un risque est présent.
Oui, toujours. Il parlait au début d'une personne qui faisait un malaise, qui devait être emmenée au CHUV, qui est en train de faire un malaise dans une autre pièce. J'ai pas pu comprendre exactement de quoi il parlait, mais c'est des choses qui arrivent, qu'il y a des personnes qui se sentent mal dans des cellules ou quand ils sont sous l'emprise de la police, et ces personnes sont enfermées dans une pièce, et puis si les policiers sont pas d'accord de leur venir en aide, il y a pas d'aide qui leur arrive, quoi.
À ce moment-là, on te signifie, comment ça se passe? On te signifie officiellement, vous êtes en garde à vue, il est telle heure, et puis ensuite on te descend dans une cellule. Explique-nous.
Absolument pas.
Non, alors explique-nous un peu le processus.
Donc non, là, sans, à chaque fois, ils nous expliquent pas où c'est qu'on nous amène, qu'est-ce qui se passe. Vraiment, là, on m'a mis dehors dans une cellule commune, qui est en extérieur, après qu'on m'ait confisqué ma veste, avec les autres personnes qui ont été arrêtées à cette manifestation. Ensuite, ils sont venus me chercher, une fois de plus, ils n'ont pas voulu me dire où c'est qu'ils m'emmenaient, pour m'emmener dans, cette fois dans une cellule individuelle au sous-sol, où je suis resté pendant plusieurs heures. Et puis, ouais, ça, donc c'est une cellule qui est vraiment pas grande, où ils ont enlevé le matelas pour ma pomme.
Ouais. Et là, on perd la notion du temps.
On n'a aucun moyen d'avoir la notion du temps.
Selon toi, ça s'est fait à dessein, on déstabilise, on pourrait aller jusqu'à parler de torture psychologique.
Absolument. C'est vraiment un cube blanc en béton. Puis si on n'a aucun stimuli visuel, c'est très dur de garder la tête claire. Avec le temps qui passe, on ne sait pas comment, on n'a rien à faire. Toutes les personnes avec qui on a eu une interaction, ça ne s'est pas très bien passé. À chaque fois, on se prend des remarques, et puis au final, même si on a soif, on hésite quand même à demander de l'eau parce qu'on n'a pas envie de subir encore leurs humeurs. Il y a une caméra qui nous filme tout le temps. Si on tire la chasse d'eau, des toilettes turques sont situées pile en dessous de la caméra, il y a l'interphone qui s'allume, donc on ne se sent pas à l'aise, évidemment. Et puis si on veut fredonner une petite chanson pour essayer de passer le temps, aussi l'interphone qui s'allume, donc on se sent tout le temps épié, et puis il y a vraiment un sentiment de malaise profond qui s'installe. C'est quelque chose qui est forcément voulu pour déstabiliser les personnes qui se retrouvent dans cette situation, pour qu'après ça se passe plus facilement pour la police et moins bien pour eux lorsqu'il s'agit de répondre aux questions.
Comment peut-on expliquer de tels procédés ? Ce que je veux dire par là, c'est que le récit que tu fais, si on va dans la littérature carcérale ou de résistance, eh bien, sans blague, les mots sont les mêmes que lorsqu'on a le récit de, par exemple, une prison comme The Maze, en Irlande, où sont incarcérés des gars de l'IRA, quoi. Et où, effectivement, le maze, le labyrinthe, avec des espaces monocolores exprès, et les prisonniers, alors là, on est carrément déjà dans la prison haute sécurité, eh bien, les prisonniers sont baladés pour leur faire perdre la notion du temps et de l'espace, pour les déstabiliser, pour leur faire, au bout du compte, du mal. Sans arrêt, on en est quasiment à ça. Comment est-ce que tu expliques ça?
En tout cas, j'ai l'impression que le but recherché, c'est vraiment de casser le moral, l'esprit des personnes qui sont enfermées, pour les rendre plus dociles, ou bien qui coopèrent à tout et n'importe quoi. Il n'y a aucun souci qui est pris sur leur état psychologique, ou bien sur essayer de les accompagner vers une réforme, quoi que ce soit. C'est vraiment un système qui est là pour punir, pour casser, et puis plutôt que les gens d'apporter des solutions, que les gens n'osent plus rien faire, et puis qu'ils se retrouvent après complètement dociles.
C'est vraiment pour briser.
Voilà.
Alors, que se passe-t-il ensuite? La durée, est-ce que tu saurais plus ou moins nous dire combien de temps tu es resté dans cette cellule dont on rappelle que tu étais sur un bloc de béton? Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Interrogatoire ou voilà?
Voilà, ensuite, ils sont revenus me chercher. Je crois que c'est 3 heures après. C'est très compliqué de se remémorer les heures qu'il y avait, même sur l'instant même, je ne savais pas trop. Donc, c'était pour m'emmener à l'étage d'au-dessus, où j'ai été interrogé après avoir passé de nouveau un quart d'heure dans une autre cellule où il n'y avait même pas de toilette cette fois, par deux inspecteurs. J'ai refusé de répondre à leurs questions, de collaborer. Ils ont quand même marqué sur le PV que des mots que j'ai pas prononcés, par exemple. Je refuse de signer le document attestant de mes droits que vous m'avez dûment montré et que j'ai lu et compris. J'ai dit que je...
Tu l'as jamais dit.
Voilà, jamais dit ça, j'ai jamais dit quelque chose de proche de ça, et c'est quand même ce qu'il a dicté à son collègue de taper dans le PV. Et puis, j'ai évidemment pas signé aucun des documents qu'ils m'ont présentés.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai eu le droit, grâce à ça, des remarques condescendantes du style, mais vous savez lire et écrire au moins, et puis ça semblait vraiment pas une question honnête, quoi. C'était vraiment d'une manière hyper condescendante. Et puis voilà, quoi.
Et puis c'est vrai que quand on en est là, j'imagine qu'on a tout de même envie le plus vite possible de s'en sortir, de quitter ce lieu, quoi.
Voilà, c'est un peu tout ce dont on a envie, quoi. On sait, en tout cas, moi je savais que si je coopérais, ça allait pas allé dans mon sens au final, que j'avais pas rien à gagner à coopérer avec eux, même si je devais rester plus longtemps au poste de police. Bon bah tant pis, mais au moins après ils pourront pas inventer des choses pour m'emmener en prison. Et puis oui, donc ils me disent à la fin de cet interrogatoire qu'ils allaient appeler la procureure en charge, que soit j'allais être libéré immédiatement, soit elle allait vouloir m'entendre. Donc ils me ramènent dans la cellule de cet étage. Et puis j'ai pas de nouvelles pendant en tout cas 1 heure, 2 heures, jusqu'à qu'une infirmière passe parce que j'ai toujours demandé à un médecin, donc l'infirmière qui va voir les détenus qui a pu passer. Après, elle a pas constaté si j'avais des blessures ou quoi. Elle a juste pu me proposer un Dafalgan pour la migraine que j'avais. J'ai refusé le Dafalgan parce que finalement c'est pas vraiment ce que je voulais, quoi. Et donc ensuite, on m'informe que je vais pouvoir parler au téléphone avec mon avocate.
Enfin.
Voilà. Et donc, il m'emmène dans la même pièce pour que je puisse parler au téléphone, au haut-parleur, avec les deux flics juste derrière mon épaule. Et là, c'est mon avocate qui m'informe, en fait, qu'ils ont décidé de me garder pour la nuit au poste. Je crois qu'il était à peu près 5 heures et que la procureure allait pas m'entendre aujourd'hui, mais demain. Et puis, j'ai pu poser quelques questions, mais comme c'était pas confidentiel, rien de bien spécifique à mon avocate. Ensuite, il me ramène au sous-sol, dans une autre cellule, où cette fois, ils ont laissé le matelas quand même. Quel luxe.
Quel luxe.
Voilà. J'ai eu le droit à mon seul repas de la journée, un petit gobelet jetable rempli de bouillon avec 3 bouts de pain. Et 3 bouts de pain, j'ai demandé le maximum de bouts de pain et pas juste un petit bout de pain. Et bien, comme j'avais rien d'autre à faire, je crois qu'il était à peu près 6 heures, j'ai essayé de dormir. Et puis après, en fait, ils sont venus me réveiller vers 22h15, je crois, pour m'amener devant la procureure. Donc il m'emmène, et puis là le procureur, qui elle avait l'air en pleine forme, m'accueille. Moi à ce moment-là, enfin, j'étais vraiment épuisé. Réveiller, sortir du lit, ça faisait des heures que j'étais enfermé, que j'avais pas eu la moindre interaction sociale qui avait pas été vraiment horrible pour moi.
Aucune option cognitive, rien. Mais justement, physiquement, comment tu te sens et dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Parce que c'est important. Mm-hmm. À ce moment-là, tu vas t'exprimer, tu vas devoir dire des choses importantes et j'ai l'impression qu'il y a tout le processus pour te briser a eu cours. Donc, dans quel état est-ce qu'on arrive physiquement et mentalement, nerveusement, émotionnellement?
Voilà. Physiquement, j'avais mal partout, quoi. Après avoir passé toute la journée sur du béton. Et j'avais vraiment un mal de tête. Je sais pas si c'était dû au mur blanc, au néon qu'on a constamment sur nous, ou un peu de tout au final, de pas avoir pu boire à ma soif, parce que j'ai tellement réprimé que j'osais plus demander de l'eau régulièrement. Physiquement déjà ça allait pas, et puis mentalement c'était encore pire. Enfin, j'étais vraiment à bout, complètement démoralisé, complètement cassé. J'osais plus parler, je parlais très bas au final.
Oui,
enfin,
oui.
J'avais de la j'osais plus que ça sorte, parce que dès qu'on s'exprime face à la police dans ces situations là on se fait gueuler dessus. J'osais plus parler fort et j'avais de la peine à trouver mes mots plus que d'habitude. J'avais de la peine à faire des phrases, à réfléchir, à vraiment sortir les mots. Et puis surtout, j'avais qu'une envie, c'était plus retourner dans ce bloc de béton horrible, qu'on me foute dehors, qu'on me laisse tranquille, quoi.
Et alors là, tu parles avec la procureure, elle te questionne.
Voilà, elle m'a demandé si je voulais apporter des modifications à l'interrogatoire que j'ai eu le plus tôt. M'a posé 2-3 autres questions. J'ai évidemment aussi refusé de coopérer, de signer les documents, de répondre aux questions. Parce que j'étais de toute façon pas dans un état de le faire, de réfléchir à qu'est-ce qui est dans mes intérêts. Mon avocat était pas là, il était 22 heures passées, il habite pas dans le même, dans cette ville. Enfin,
qu'on te questionne à ce moment-là, sachant ce que par quoi tu es passé, me paraît déjà, franchement, au-delà des limites, quoi.
Voilà. Oui. Oui, bref. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'était délibéré de me faire croire que j'allais passer la nuit au poste, semblant pour me surprendre, me déstabiliser encore plus, que je me dise j'ai la chance de pas passer la nuit au poste. Je vais quand même répondre aux questions, à tout ce qu'on me demande, comme ça. Bah, après, ils me laisseront sortir. Et puis, certains même, alors que finalement, c'est l'intention derrière est perverse et de pouvoir me mettre un maximum sur le dos.
Tu vas nous raconter un peu les conditions et le moment auquel tu es libéré. Et qu'est-il advenu de tes co-détenus? Est-ce que tu as eu vent de leur processus et de leur situation?
Donc après cet interrogatoire avec la procureure, ils m'ont restitué les affaires qu'ils m'avaient confisquées, à l'exception des bombes à eau remplies de peinture qui étaient dans mon sac, qui ont été confisquées, détruites. Ils ont quand même bien dû s'amuser. Et donc ils m'ont mis simplement dehors devant l'hôtel de police de Tunnel à 22h30 à peu près. J'ai dû courir pour pas attraper le dernier train. J'ai heureusement quand même pu avoir ce dernier train. J'ai appris, une fois que j'ai pu reprendre contact avec des camarades qui avaient eu beaucoup de soutien, qui s'étaient déjà organisés, ce qui permet évidemment de beaucoup plus vite de repartir mentalement.
De recouvrer santé mentale, émotionnelle,
exactement.
Physique, bien sûr.
On m'a informé aussi que les personnes qui avaient été interpellées ce jour-là, en tout cas plusieurs, étaient sorties plus tôt dans l'après-midi.
Et la suite? Est-ce qu'une convocation va suivre? De quelle manière est-ce qu'on peut se solidariser et rester en alerte?
Alors, pour la suite, j'ai reçu une ordonnance pénale directement de la procureure de 140 jours amende à 30 francs. Donc 140 jours amende, quand ils sont pas payés, ça fait 140 jours de prison. Il y en avait 40 qui venaient d'un sursis pour un acte de désobéissance civile contre la construction d'un nouvel abattoir à Aubonne. Donc ils ont rajouté 100 jours et fait sauter ce sursis. Et donc je vais faire recours, bien évidemment, à ça. J'ai pu m'entretenir aujourd'hui avec mon avocate. Et puis donc le recours est fait. Et puis je pense que je vais être convoqué chez la procureure et puis on verra comment ça se passe.
Et ça, c'est à Lausanne que tu seras convoqué,
oui,
que tu vas devoir te présenter.
Très certainement, oui. Mais au moins, j'aurais pu préparer ma défense. Ça ne fera pas des heures que je suis enfermé. Je serai dans un état, je l'espère, psychologique normal.
Comment est-ce que l'on peut, alors justement, se tenir en alerte et comment est-ce qu'on peut solidariser? Est-ce que d'ores et déjà une cagnotte existerait ou voilà, est-ce que tu as quelques pistes à nous donner de ce côté-là?
Normalement, il n'y a pas de cagnotte qui est mise en place. Je ne sais pas s'il y en aurait besoin pour les autres personnes qui se sont prises amende. Personnellement, ça me pose quand même un dilemme éthique de donner de l'argent à ce système et de, au final, pas de le légitimer quand même, mais de marcher avec ce système. Donc, je suis pas certain que je souhaite que je paierai ces jours amende. Et puis d'ailleurs, j'ai pas de revenus. Compliqué.
Ouais.
On verra. Bon, je pense que ce sera en tout cas pour moi dans un second temps. En tout cas, pour le soutenir, il y a clairement besoin de beaucoup de soutien de toutes parts. Faudra avoir les communiqués de presse qui sont relayés. En tout cas, je pense que ce sera sûrement relayé par Libre Radio.
Alors nous, certainement, tout le temps. Et puis, renversé.co,
renversé.co aussi, la grève du climat, très certainement.
Ouais.
Il y aura aussi, et aussi, on peut trouver normalement déjà ou peut-être dans les prochains jours, quand ça sortira, je pense que ce sera déjà trouvable. Des vidéos de l'interpellation, un témoignage complet. Là, je dis à peu près les mêmes choses que j'ai dit là, mais sur tout ce qui s'est passé. Et accompagné d'un petit communiqué de presse, il devrait y avoir une adresse mail pour se tenir informé, avoir des nouvelles ou bien pour apporter n'importe quel soutien.
Nous, on mettra bien entendu tout ça au libellé de ce podcast. Un des petits communiqués qu'on avait et qui m'a permis de préparer cet entretien termine par ces phrases-là. Cet événement s'inscrit dans une logique permanente de violation du droit de manifester face à la répression systémique. Unissons-nous, soyons solidaires dans la pluralité des moyens de lutte. Ça me paraît pas mal comme mot de la fin.
Oui, absolument. Je pense que c'est très très important de rappeler que ce que j'ai vécu, c'est pas un cas isolé, c'est un problème qui est absolument systématique, et que c'est l'effet recherché toujours. Et puis que malheureusement aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre et de supplier l'État ou les patrons de bien arrêter de nous exploiter, et puis de créer ce changement climatique qu'on va bientôt plus pouvoir arrêter. Donc il y a vraiment besoin qu'on agisse maintenant, rapidement et efficacement.
Très bien. Raoul, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Courage pour la suite. On se retrouve dans la rue. Ciao.
Ciao.